Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Où que vous soyez dans le monde, nous allons vous accompagner dans la joie, l'émotion et la bonne humeur. Vous aurez forcément au moins une idée de lecture à la fin de cette émission. N'oubliez pas surtout d'acheter vos livres chez un libraire indépendant, c'est vital en ce moment. Une librairie qui baisse le rideau, c'est la liberté qui recule. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
L'écrivain David Fuenquinos revient avec un nouveau roman dans une démarche fantasque pour provoquer la fiction et s'inspirer du réel. Cet auteur populaire a pris un risque. Va-t-il séduire nos libraires? Réponse tout à l'heure. Dans cette nouvelle formule lancée pour les 15 ans de la librairie francophone, notre séquence souvenir. Nous irons aujourd'hui dans le centre-ville de Saint-Pierre, à La Réunion, avec Patrick Deville. Notre livre de poche de la semaine avec une grande personnalité de la littérature africaine, une personnalité très rare dans les médias. Cher Hamidou Kan sera avec nous depuis Genève. Et puis nous recevrons la Belge Alia Cardin qui publie un livre bouleversant en hommage aux infirmières qui sauvent des enfants. Et bien sûr, les libraires sont avec nous. Thomas Auxerre représente la France, libraire à Puteaux dans la librairie Lamandier. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
On commence avec vous et avec le prix Fémina qui a été décerné à Serge Joncourt cette semaine.
Et oui, tout à fait. Alors, moi, c'est vrai que personnellement, je trouve ça un petit peu dommage que le prix ait été remis alors que les librairies ne sont pas ouvertes normalement. Hein, tous en comptoir ou en click and collect. D'ailleurs, je crois que même l'auteur Serge Joncourt s'en est désolé. J'ai vu ça sur Internet. Bon, après, c'est vrai que ça ne retire rien à ce roman qu'on a trouvé très prenant et nous qu'on recommande chaudement à nos lecteurs.
Exactement, et nous aussi, Nature Humaine, on soutient ce livre depuis sa sortie. Votre librairie est fermée, Thomas, mais vous vendez sur le pas de la porte, en fait, avec des ventes à emporter, c'est ça?
Exactement, ouais, les gens passent par le site internet, ou nous téléphonent, nous envoient un email ou un pigeon voyageur, et puis bah, après, ils viennent récupérer la commande sur le pas de la porte. On a un super soutien, hein, c'est vraiment formidable.
Bon, tenez le coup, hein, on vous avait accompagné au printemps, on avait initié avec vous, on vous avait encouragé d'ailleurs, hein, ces ventes
c'est
à emporter.
Vrai.
Et là, ça recommence et voilà, ça va marcher, et on est avec vous de tout cœur. Je félicite chaleureusement Serge Joncourt. Je vous demande de ne pas commander son livre sur les grands sites marchands, mais là aussi de choisir une librairie indépendante où que vous soyez dans le monde. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles. Vous représentez la Belgique et vous avez une petite anecdote à nous raconter.
Ben oui. Un jour, il y a un livre qui arrive pour un monsieur et je savais qu'il l'attendait avec beaucoup d'impatience. Alors, je téléphone chez lui pour le prévenir et puis il y a une toute petite voix flûtée qui me répond et qui me demande qui c'est. Alors, je lui réponds, ben, c'est la librairie La Licorne. Et là, j'entends la petite voix, pas du tout déstabilisée, qui crie à son papa, « Papa, c'est une licorne au téléphone pour toi !»
Ça a dû vous faire plaisir, ça, hein, parce que vous vous prenez pour une licorne depuis des années, je sais.
Mais pour une elfe, Emmanuel, pas pour une licorne.
Ah, je sais pas, moi je suis perdu, hein. Avec les elfes, les licornes, c'est pas du
je
tout mon truc. Non, c'est bon. Merci pour cette histoire, Déborah. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous vous représentez la Suisse, vous êtes libraire à Baudry, dans la librairie Une Petite Prose, vous n'avez pas de licorne chez vous. Hein.
Non, malheureusement.
Au Canada, il y en a peut-être, on retrouve Josiane Nétourneau, libraire dans la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Oui, des licornes, non? Je sais pas.
Moi j'en suis une un peu, alors je
d'accord. Vous. Voilà, vous avez constaté que nos libraires vont beaucoup mieux en cette période sanitaire. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'être avec nous tout au long de cette émission. Et dans cette nouvelle formule, chaque semaine, nous donnons la parole à un autre libraire, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, on part à Madagascar, dans la librairie Millefeuille, à Antananarive. Vahirana Ramalan Johanna est avec nous. Bonjour Vahirana.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez déjà participé à cette émission, dans la version télé d'ailleurs. Vous vous souvenez?
Oui, la télé, la radio. Oui,
vous avez tout fait. Bon, vous savez le principe de cette séquence à Madagascar. Je sais que c'est compliqué en ce moment, en raison du Covid évidemment. Les frontières fermées, ça ne facilite pas les choses, mais vous allez nous dire quel est le livre qui vous a fasciné récemment, quel est le livre qui vous a passionné.
Alors, je vais parler d'un livre que j'ai lu il y a un moment déjà, mais je l'ai choisi parce que c'est celui qui correspond à ce que je vis en ce moment, et je dirai à la fin pourquoi.
Oui.
J'ai choisi le livre de Valérie Perrin, « Changer l'eau des fleurs ». que tout le monde connaît, je pense.
Non, pas forcément, mais allez-y, dites-nous. Ah bon, non, pas forcément, dites-nous de quoi ça parle vite fait.
Alors, vite fait, c'est un roman qui parle de la vie de Violette Toussaint et surtout de son quotidien en tant que garde cimetière, qui est d'ailleurs ponctué par des échanges avec les gens qui viennent au cimetière. Donc, on a cette Violette qui parle à son chat, qui parle aux gens, vivant ou mort aussi d'ailleurs.
D'accord. Et alors quel lien avec vous du coup ? Vous dites que ça a un lien avec ce que vous vivez en ce moment ?
Ah oui, alors j'ai choisi ce livre car je viens de perdre un être cher. Et c'est Violette qui coûte que coûte est résolument tournée vers la vie qui m'a fait penser à ce livre aujourd'hui.
D'accord.
Et surtout cette manière dont on parle de la mort dans ce livre qui est vraiment rare et original parce qu'à Madagascar, on ne parle pas de la mort comme ça.
Mmh.
On n'en rit pas, on respecte les morts. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis, cet optimisme dans un contexte Covid, je trouve ça très opportun, en fait, finalement, d'en parler aujourd'hui,
même si
ce livre est sorti un petit moment déjà.
Bon, beaucoup de courage pour vous, Voirana, et vous illustrez effectivement cette capacité qu'ont les livres, parfois, à nous aider dans des moments difficiles. Et ce livre, apparemment, en fait partie avec « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. C'est en poche au livre de poche. Merci beaucoup, Voirana Ramalan-Johanna. Merci, je rappelle que vous dirigez la librairie Millefeuille à Antananarive. Bon week-end quand même à Antananarive. À bientôt, Voirana.
Merci, au revoir.
Et bonjour David Fuenkinos.
Bonjour.
La musique des Doors que votre personnage rêve de mettre en bande son sur un passage de son livre. Mais il dit la littérature est silencieuse. Pas tant que ça en fait.
Souvent quand on écrit, on a forcément des mélodies, des sons. De toute façon, l'écriture est par essence quelque chose d'extrêmement rythmique.
Vous aviez cette musique là ? Enfin, j'ai choisi.
Oui, alors moi chaque roman a été associé à une musique. La délicatesse, c'était l'amour en fuite de Souchon.
Oui, c'est vrai.
Charlotte, j'ai beaucoup écouté Schubert. Et là, oui, c'est vrai que c'est un livre un peu assez ludique, La famille Martin. Donc les Doors et notamment celle-là, je trouve que c'est un très bon choix.
Ah ben voilà. Ben écoutez, c'est cadeau pour vous.
Merci.
Love Street, la rue de l'amour. Ce titre correspond bien à votre roman La famille Martin. David. Un jour, en mal d'inspiration, un écrivain parisien à succès prend la décision de sortir dans la rue et de choisir comme personnage de son prochain roman la première personne qui va attirer son attention.
C'est exactement ça. À vrai dire, il en a marre de la fiction, il en a marre d'inventer des histoires, et il se dit que le réel est plus intéressant quoi qu'il arrive. Donc descendre dans la rue comme un défi et s'amuser avec l'idée que la première personne qu'il va rencontrer va devenir le héros ou l'héroïne de son roman. C'est vrai que les lecteurs me demandent beaucoup si c'est vrai, c'est pas vrai dans ce roman,
mais en tout cas
le point de départ je l'ai vraiment fait. J'ai rencontré une femme de 82 ans, Madeleine, qui a été très sympa, avec qui j'ai commencé à discuter et c'est le point de départ du livre.
Alors c'est ça, il tombe sur une vieille dame qui vient de faire ses courses, qui a des choses à mettre au congélateur. Il l'aborde et il lui dit « J'aimerais écrire un livre sur vous ». Elle lui dit « Comment ça ?»
Alors tout d'abord, moi ça m'arrive très souvent quand je fais des dédicaces, je rencontre les lecteurs, les gens viennent me voir et me disent ce que je raconte dans le livre. Vous devriez raconter ma vie, j'ai plein de choses à dire. Et c'est vrai que quand on est écrivain, on est un terroir à curiosité, on passe notre temps à écouter les histoires des autres, à interroger. Et c'est vrai que ce livre est en grande partie nourri par les histoires que j'ai pu collecter depuis ces dernières années. Et toute la famille Martin finalement se retrouve à travers des témoignages que j'ai récolté.
Alors, Madeleine Tricot, c'est son nom. Elle a travaillé avec Karl Lagerfeld chez Chanel, Madeleine Tricot. Elle lui dit, en fait, de venir chez elle. Et lui dit, bon, bah, c'est très bien tout ça, parce que j'ai trouvé mon personnage, mais c'est ça l'avantage de la réalité, on gagne du temps. En revanche, il y a un désavantage de taille, c'est le manque d'alternatives.
Oui, j'étais complètement bloqué avec ma famille Martin, ça c'est sûr. Et c'est un livre sur la soumission au divertissement, sur la nécessité d'être intéressant. Et c'est vrai que j'interroge tout le temps mes personnages dans leur capacité à être intéressant. Est-ce qu'on a envie de connaître leur histoire ? Alors c'est vrai que Madeleine, elle travaillait avec Karl Lagerfeld et je me dis ça, très bon point.
Mais c'est vrai ça ou pas ?
Oui, c'est vrai. À chaque fois, elle travaille chez Chanel. À chaque fois que Madeleine ne va pas être très, très palpitante dans ce qu'elle raconte, ça peut arriver.
Ouais.
Pas souvent parce que sa vie est passionnante. adolescente et puis elle raconte un premier amour, une passion de jeunesse et c'est vrai qu'on rentre dans cette histoire. Mais à chaque fois qu'il y a un petit mou narratif, je raconte une anecdote palpitante sur la guerre faite.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Voilà, c'est ma botte secrète pour.
C'est votre hommage, je dirais.
Oui, et puis c'est vraiment un roman sur le laboratoire d'écriture d'un roman.
Est-ce que c'est un concentré d'autofiction, un être humain ? Parce que vous dites, tout le monde aime se raconter. Chacun a les ressources pour un roman potentiel ?
Bah ça, c'est certain. Je pense que tout le monde est potentiellement romanesque.
Ouais, c'est vrai.
Même l'ennui est intéressant. Alors, j'espérais ne pas avoir des personnages pétris d'ennui. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'écrivain rentre dans cette famille, ils vont tous devenir intéressants. Ils vont essayer de faire des choses romanesques. Et finalement, toute leur vie va basculer, va changer. Et je vais être le témoin de tout ça. Mmh. Mais toute vie est intéressante. Si, c'est une question de point de vue. Si vous aviez invité Flaubert, par exemple, à la librairie Focophone,
Flaubert.
Oui, bah, je sais qu'il a très envie de faire l'émission, mais il serait venu.
Il a peur des libraires. Voilà. Paraît-il.
Oh, je crois pas, mais en tout cas, il aurait dit voilà l'histoire de mon dernier livre, c'est une femme qui s'ennuie et qui trompe son mari. Donc, pitcher comme ça, cela n'aurait pas été forcément palpitant.
Mais ce n'est pas palpitant, Flaubert. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est pas palpitant.
Bah, je vous laisse libre de votre opinion. Moi, j'ai fait un mémoire sur Flaubert.
Oui,
et j'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est le point de vue.
Oui, alors il y a Valérie, la fille de Madeleine, qui va proposer d'élargir le champ et d'écrire sur toute sa famille, tant qu'à faire. Et vous dites à un moment, l'écriture est une forme de trahison.
Enfin, moi, c'est un pacte que j'ai avec cette famille, ouais. Et plutôt un pacte bienveillant. J'ai pas écrit des choses négatives et c'est en accord avec les personnes avec qui, voilà, qui auraient pu être les inspirations.
Mais pourquoi c'est une trahison? Parce qu'on dévoile trop de choses? Parce qu'on est un peu voyeur?
Le pacte, c'est la réalité. La réalité fait mal, la réalité peut blesser. Et puis, il y a quelque chose aussi de l'ordre dans cette famille qui va se dévoiler d'une manière excessive, qui va raconter des choses. Je parle, par exemple, du couple, de l'usure du couple. C'est extrêmement classique, beaucoup de gens le traversent, mais ça n'en demeure pas moins une souffrance, une violence pour un couple qui est ensemble depuis 20 ans, 25 ans, qui a deux enfants et pour qui le désir n'existe pas. Donc raconter cette violence-là, de toute façon, et en tout cas tout ce qui blesse, tout ce qui fait souffrir, c'est une forme de trahison avec l'apparence.
Mais vous le faites très bien en tout cas, David. Vous êtes un bon traître, parce que vous racontez très bien les choses.
Je me disais, tiens, compliment, la chute était violente, d'accord.
Alors votre écrivain, il a eu le prix... Non mais c'est vous qui le dites, hein. Moi je ne sais jamais dit que l'écrivain était un traître. Hein. Votre écrivain a eu le prix Renaudot. Il a beaucoup de points communs avec vous. Quand on vous connaît un peu, David, comme moi, hein, on va dire les choses, on va dire la vérité aux auditeurs, on sait plus, en fait, si c'est vous ou pas. Et ça m'a énervé, ça. Mais ça m'a énervé.
Ah ben ça, c'est votre tempérament un peu comme ça, facilement irritable, hein, parce que moi, la plupart des commentaires que j'ai pu avoir de tous les lecteurs qui ont commencé à lire le livre, c'est justement, au contraire, il y a un rapport amusé. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est de la réalité? C'est délibérément un livre où, finalement, je m'amuse avec ça. Et c'est vrai que je brouille.
Ouais. On peut méditer là-dessus, on va voir les libraires ce qu'ils en pensent, d'accord ?
Avec plaisir.
Avec la France et le Canada, vous voulez commencer par qui ?
Écoutez, on va commencer par le Canada parce qu'on ne peut pas voyager en ce moment.
Exactement, vous êtes bloqué à Paris et c'est Josiane Étourneau qui est bloquée à Montréal. Josiane.
Eh bien, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de candide dans la façon dont vous offrez ce roman au monde. Et même si vous nous rappelez sans cesse, le motif du projet romanesque, j'ai quand même eu l'impression d'une garde baissée, comme si vous déposiez les armes et que cette histoire s'écrivait toute seule, directement du cœur sur la page, comme une déclaration d'absolu faite à vos personnages. Et pour moi, ce qui habite cette histoire, c'est une magie amoureuse et humaine, pleine d'humour, d'autodérision, et c'est cette magie qui m'a gardée captive jusqu'au bout.
Parfait.
Bah, ça me touche beaucoup, merci. Mais c'est vrai que c'est une déclaration d'amour à la littérature et aux personnages, et l'écrivain est totalement soumis à ces personnages. Bah, ça me touche beaucoup. J'ai hâte de pouvoir venir au Canada très vite.
La France avec Thomas Auxerre.
Oui, alors moi, quand j'ai lu le résumé et les premières pages de votre roman, je me suis demandé si vous y alliez pas un peu fort dans la facilité quand même, hein, David Foenkinos. Et puis après, malgré les évidences, en fait, je me suis laissé gentiment prendre par la main et guider dans cette histoire qui est un petit peu bluette. Mais je dois dire que entre la période vraiment anxiogène et puis le fait que c'est un petit peu dur en ce moment en librairie, moi, c'est un roman facile que j'ai bien lu, donc vraiment, je conseille.
Voilà. Vous avez séduit nos libraires.
Merci beaucoup. C'est vrai que je sortais de deux livres assez, assez douloureux, assez difficiles, et les résolument légers. Et j'aime bien même cette idée de Buette. Je vous remercie beaucoup.
David Fuenquinos, vous l'auteur de Nos séparations, de La délicatesse, des souvenirs, de Charlotte, de Vers la beauté, vous vous êtes toujours intéressé au réel. Là, vous prenez le risque d'une mise en abîme, que vous aviez déjà tenté d'ailleurs avec Qui se souvient de David Fuenquinos, et vous faites la satire du métier de l'écrivain. Vous déprimez un peu, David, dans votre vie en ce moment ?
Alors, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est un livre qui était porté par une énergie de création, d'amusement. C'est un livre qui parle des auteurs que j'aime, de la littérature, de ce que m'apporte la littérature, du goût que je peux avoir pour la fiction,
mais
de l'intérêt
blues.
Que j'ai pour les personnages.
Il a le blues, votre personnage, un peu.
Oui, mais c'est un double un peu dépressif. Mais ça, on a tous en nous une version un peu triste de qui on peut être. Ça me paraît assez évident. Mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est malmené par ses personnages et qui est totalement dépassé par son histoire et qui devient lui-même un personnage de cette fiction, de cette famille Martin.
Alors, il y a beaucoup de sujets, David, qui sont très bien explorés. Vous explorez par exemple le rapport au travail avec le père de la famille Martin qui est attaqué injustement par son directeur. On le laisse dans l'incertitude de son avenir, on le menace comme ça l'air de rien. Et ça, à un moment avec l'âge, ça devient inacceptable. Ce n'est pas ça la vie, on ne se laisse pas intimider, même pour garder son poste.
Oui, c'est vrai, je parle beaucoup depuis le début du rapport ludique que j'ai pu avoir en écrivant ce roman, mais je ne fais pas l'économie de sujets qui me touchent, qui sont importants, que j'ai déjà évoqués parfois dans d'autres romans. Et c'est vrai qu'il y a le harcèlement au travail à travers l'histoire de Patrick Martin, qui est totalement soumis à la volonté d'un petit chef tortionnaire imbu de son pouvoir. Et c'est vrai que l'arrivée finalement de l'écrivain dans cette famille, le témoin, va le pousser à réagir enfin. Et c'est vrai que j'étais assez fier de mon personnage, de voir la façon avec laquelle il va réagir. Et c'est vrai que c'est assez violent.
Voilà.
En tout cas, c'est assez...
Faut toujours se méfier d'une personne humiliée au travail.
Exactement. Et tant mieux. Et vive Patrick Martin.
Bon, il y a une belle histoire d'amour aussi dans ce livre qu'on ne va pas dévoiler, mais qui va nous emmener jusqu'aux États-Unis, sur la côte ouest, là où on a voté Joe Biden d'ailleurs. Il y a parfois des choses de la vie qui font qu'on se rate. Des choses de la vie qui font qu'on échoue dans une belle histoire, mais au final, ben en fait, on n'y peut rien.
C'est tout à fait juste. Ce qui me touchait déjà, parce que là, ça fait écho à l'histoire de Madeleine, qui a 82 ans, et moi, j'ai déjà écrit un livre sur la vieillesse, qui s'appelait Les Souvenirs, qui avait été au cinéma avec Annie Cordy. Et c'est vrai que je vois toujours la jeunesse, je vois toujours le passé dans les personnes âgées. Et ce qui me touchait, c'était à la fois de voir la fille de cette femme, Valérie, qui est totalement inquiète parce que sa mère prend de l'âge et n'est peut-être plus capable de gérer son quotidien. Et en même temps, moi, ce que je racontais de cette femme, ce qu'elle me racontait, c'était la jeune Madeleine, entre 20 et 25 ans, qui vit une passion amoureuse dévastatrice, avec un mystère absolu dans sa vie. C'est pourquoi cet homme l'a quittée plus de 60 ans auparavant. Et c'est vrai qu'elle va essayer de comprendre les raisons de cette blessure sentimentale.
Énormément de sujets abordés. C'est un livre qui va plaire à un très large public. Vous avez réussi à écrire un roman populaire une fois de plus, David Fuenquinos. Félicitations.
Merci beaucoup.
Vous voyez, un compliment quand même.
Ben, ça me fait plaisir. Hein. Pour moi, roman populaire, c'est un très beau compliment.
Oui, je sais. Merci beaucoup, David. On se connaît bien. Hein. C'est pour ça que je me permets. La famille Martin est parue aux éditions Gallimard. Merci pour votre fidélité à la librairie francophone.
Je crois que c'était ma 10e participation.
Alors, à l'émission.
Parfois, j'ai été critiqué, un peu malmené. Et là, je dois avouer que
rarement.
Ça m'est déjà arrivé. Mais là, je suis très heureux que les libraires aient suivi ce livre avec attention et bon courage à eux.
10 participations. Vous allez peut-être battre Dany Laferrière, Jean-Christophe Ruffin et d'autres, j'ai pas tenu les comptes, mais c'est possible. Merci David, à très bientôt.
À bientôt.
À suivre notre séquence autour des 15 ans de l'émission avec une balade sur l'île de la Réunion avec l'écrivain Patrick Deville et le conseil classique d'une bibliothécaire. Avant cela, on écoute le nouveau titre de Dany. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Je suis dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Mais y a que toi qui me distingue. Oui, de tous les autres dingues. De toute façon, j'ai un flingue. Alors rangez vos seringues. Où je monte à fond la bastringue. De Paris à Saint-Domingue. Tu vois, je suis. Je mets ma robe en meringue. carlingue. Certains la trouvent un peu ringue, mais ma carlingue, j'en suis dingue. Oui, même quand elle se déglingue, tu vois, je suis.
C'était la chanteuse Dani avec son nouveau titre « Dingue » dans la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Notre nouvelle séquence avec chaque semaine la parole aux bibliothécaires. Cap sur Lausanne en Suisse aujourd'hui. Bonjour Isabelle Cardi-Cisli.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire à la bibliothèque de Lausanne dans le quartier Montrion. C'est une bibliothèque qui se trouve où exactement? Quel est le décor, tiens?
Alors elle se trouve sous gare à Lausanne dans un très très joli quartier avec un parc juste à côté.
D'accord, vous allez au parc donc à midi, c'est ça, entre midi et deux?
Bien sûr.
Bien sûr. Bon, vous allez nous conseiller un classique de la littérature suisse, c'est le principe de cette séquence. Quel livre avez-vous choisi, Isabelle?
Alors j'ai choisi « Si le soleil ne revenait pas » de Charles Ferdinand Ramu.
Oui.
C'est un livre auquel je pense beaucoup ces temps, dans ces temps maussades où les jours raccourcissent et où nous allons vers l'hiver. C'est un roman qui appelle à la vie et à l'espoir. Je vous le raconte.
Très vite, allez-y, oui, l'histoire pour donner envie.
Il se déroule dans un village montagnard qui est situé sur un versant nord. Et cela a comme conséquence que le soleil disparaît le 25 octobre et il ne revient que le 25 avril.
Ah oui.
Et un vieux guérisseur du village annonce que le soleil ne reviendra pas. C'est écrit dans ses livres, donc c'est la vérité. Et du coup, le village sombre dans une psychose de fin du monde. Il y a ceux qui se résignent, qui sombrent dans l'alcool ou se préparent à mourir. Et il y en a d'autres qui croient en la vie et se préparent à partir retrouver le soleil le moment venu en franchissant un col.
D'accord.
Voilà, c'est un récit un peu comme une fable, un hymne vibrant à la vie, à la jeunesse. Et voilà, c'est un roman qui donne beaucoup de courage, je trouve, et qui nous donne l'exemple, qui nous montre qu'on a toujours le choix de la vie.
Vous avez raison.
La montée est rude.
C'est vrai, parfois la montée est rude, comme vous dites. Vous avez donné envie, en tout cas, de lire ou de relire Ramu avec ce livre de 1937, « Si le soleil ne revenait pas ». Merci beaucoup Isabelle Cardi-Cisli.
Mais de rien, merci à vous.
À très bientôt, bon week-end en Suisse.
Merci.
À Lausanne.
Au revoir.
Au revoir. Pour les 15 ans de l'émission, nous piochons chaque semaine dans nos archives. Aujourd'hui, on part sur l'île de la Réunion, dans les rues de Saint-Pierre, avec l'écrivain Patrick Deville pour son roman Amazonia, qui vient de recevoir le prix Chadourne à Brive-la-Gaillarde en France. Brive où devait se tenir ce week-end la Foire du Livre. On pense évidemment aux organisateurs de salons qui souffrent beaucoup en ce moment. Et la semaine prochaine, nous vous proposerons d'ailleurs une émission spéciale autour du Salon du Livre de Montréal, à distance et en soutien à cet événement que nous accompagnons depuis toujours. Mais on part tout de suite en voyage, donc, sur l'île Intense, où nous étions il y a un an pile avec Patrick Deville.
La librairie francophone.
On a quitté la plage et on se retrouve sur les hauteurs de Saint-Pierre, un peu en hauteur en tout cas, avec le marché couvert et un grand auteur qui est avec nous. Bonjour Patrick Deville.
Bonjour.
Là on est au milieu des échoppes, des stands avec beaucoup de produits évidemment de la Réunion qui sont là, la fameuse vanille, les épices et puis plein d'objets de l'artisanat local. Ça vous inspire quoi un marché comme ça, Patrick Deville ?
Ah, c'est magnifique. Enfin, un peu partout, mais particulièrement dans ce genre d'endroit ou ce genre d'île. Bon, j'avais une mission, je l'ai accomplie. J'ai acheté des sandalettes pour aller observer les poissons du lagon.
Des tongs, vous avez acheté?
Oui, des tongs.
Mais pourquoi vous avez besoin de tongs pour aller observer les poissons, vous?
Parce que cet après-midi, j'ai fait une tentative pour atteindre le lagon, que j'étais vêtu ainsi. Alors, vous n'avez pas l'image, mais...
Costume.
Voilà, ouais. Donc pas du tout, pas du tout ce qui plaît aux poissons des lagons.
Costume estival, quand
même. Et craignant... Oui, bien sûr. Oui, de lin et de probité candide. Mais enfin voilà, demain...
Il vous fallait la tenue adéquate. Donc
absolument.
Voilà, vous avez vos tongs en main, elles sont bleues, elles sont très jolies, et en plus vous les avez payées pas cher. Bon, vous êtes lancé dans un projet fou, Patrick Deville, le projet Abracadabra. 12 romans autour du monde, Amazonia est le 7e. Vous dressez le portrait historique et contemporain de notre monde, avec des personnalités historiques, mais aussi avec votre propre vécu personnel, parfois familial. Et vous dites que ce sont des romans sans fiction. Vous n'aimez pas qu'on vous raconte des histoires inventées ?
Si, bien sûr, je suis lecteur de romans et de la littérature, mais je n'invente aucun personnage, aucune date, ouais. Aucun événement, que c'est de la littérature, si tout va bien, parce que j'essaie de les combiner de telle sorte et de les mêler à ma vie propre et à mes séjours et à mes vies parallèles en divers endroits du monde.
On va sortir de ce marché parce qu'il est en train de fermer. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes ici à La Réunion, Patrick ?
C'est un séjour très bref. Hein. Je suis arrivé hier. Et puis, il faut, évidemment, se garder des rapprochements. Ils sont inévitables.
Quels rapprochements ? Avec d'autres lieux ?
Toujours des lieux, oui. Oui.
D'autres îles ?
D'autres îles particulièrement.
Enfin, les Antilles, par exemple ?
Ce marché couvert, non. C'est plutôt... évoque plutôt, pour moi, celui de Papeete. C'est quelque chose contre quoi j'essaie de lutter. En même temps, dans le livre mexicain, Viva, je mentionnais, parce que ça m'avait frappé, à quel point le marché de Guadalajara, au Mexique, m'évoquait, je ne sais trop pourquoi, déjà celui de Papeete.
On arrive sur la gare routière, là, avec... tous les cars qui partent du centre-ville de Saint-Pierre. Et puis une vendeuse de piments qui est juste derrière nous, des piments oiseaux. Ça doit être pas mal dans un carry ou dans un rougail, par exemple, et un guitariste. Vous écrivez « S'il est souvent agaçant d'observer son père, de retrouver en lui des travers et des manies qu'on sait avoir reçues, mais qu'on aurait préféré ne pas, il est fascinant d'observer son fils, ses détails qu'on reconnaît et d'autres inconnus. Car vous êtes parti avec votre fils ?»
Oui, là, c'est particulier. Le livre précédent était le 6e, donc c'était celui du milieu. C'est un plan qui est prévu depuis plus de 20 ans. C'est deux tours du monde, et je savais que celui du milieu serait le français et qu'il serait davantage autobiographique. Et donc, j'ai écrit ma vie avec mon père, la vie de mon père avec son père, etc. Mon fils l'a lu, et puis, après avoir lu Tabataba, nous en avons parlé. Et moi, j'en arrivais à écrire l'Amazonien. Il n'avait pas le choix de la destination, puisque de toute façon, moi, j'en arrivais à écrire l'Amazonien. Mais enfin, je lui ai proposé que nous fassions le dernier voyage ensemble de l'Atlantique au Pacifique. Et donc, ce livre est devenu... Enfin, le sujet principal, on est devenu ces histoires de filiation, de père-fils, qui me fascinent, oui.
Bon, on a des nèfles juste à côté, des bananes, de la coriandre, de gros avocats. Ça vous donne envie, ça ? Vous êtes cuisinier ?
Oui, bien sûr, absolument.
Ah, vous cuisinez, vous ?
Ah oui, j'aime beaucoup cuisiner.
Bon, il y a dans Amazonia cette notion de découverte du monde, mais surtout cette notion d'étape. C'est très important, la notion d'étape. Ça tombe bien parce qu'on est à la gare routière, là, de Saint-Pierre. Il y a cette notion, comme ça, quand vous allez d'un endroit à l'autre dans Amazonia, quand vous fréquentez certaines villes, des villes fantasmées comme Quito en Équateur, les pauses autour d'un verre d'alcool fort... Tout ça, ce sont des étapes qui construisent une vie.
Oui, en tout cas, c'est la mienne. Ces livres-là sont ainsi faits. Il y a eu de l'isolement, hein, bien sûr, mais le fait de voyager à deux, il y a eu moins de cet ennui. Mais je compte beaucoup sur l'ennui. L'ennui fécond, il n'est pas toujours fécond, l'ennui, mais il faut beaucoup de temps passe d'être seul, de lire, de tourner en rond, de fumer beaucoup de cigarettes, de prendre des verres. Et puis, peu à peu... des idées viennent à condition d'avoir un carnet à portée de la main et de ne pas les laisser s'enfuir.
Où l'île loin, qu'on sentier, voix m'y connaît.
On a l'impression que vous vous sentez bien partout.
Oui, mais c'est le cas aussi dans... Comment appeler ça? Le savoir, c'est bien prétentieux, mais enfin, je sais que je ne pourrais pas être un spécialiste, enfin, dans les domaines. Je suis fasciné par les sciences, la philosophie, la littérature. Et de la même façon, je n'ai
pas d'endroit... Attention, Patrick, parce qu'il y a une voiture, on va traverser vite fait, mais il y a un gros bus derrière.
Je n'ai pas d'endroit...
Bus rose, d'ailleurs, ils sont roses, les bus, ici. Allez-y, pardon.
Privilégié, ouais. sur le globe.
Ah oui, aucun endroit privilégié.
Non, j'ai une curiosité, je me sens effectivement très très bien partout. C'est magnifique d'être à La Réunion. Je pars en Inde, là encore, si tout va bien pour un petit chapitre. Mais parfois, je séjourne très longuement. Tous les lieux de la planète sont fascinants.
Et le livre de Patrick Deville, Amazonia, est paru au Seuil. Aux éditions du Seuil, il vient aussi de sortir en poche chez Point.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des libraires, vous attendez ça avec impatience, surtout les coups de gueule. Va-t-il y en avoir cette semaine? On va voir tout de suite en Belgique avec un coup de gueule ou un coup de cœur, Déborah Damblon?
Devinez, Emmanuel.
Un gros coup de gueule, allez.
Bah oui, moi j'aime bien qu'on m'aime, alors je fais des coups de gueule.
Allez-y.
Alors, l'autre jour, j'écoute le JT sur une chaîne nationale, et puis après avoir interviewé l'artiste qui vient de sortir un livre, le présentateur conclut en disant que, par les temps qui courent, si c'est compliqué de s'approvisionner en librairie, le livre se trouve sur toutes les plateformes en ligne. Et bah si, je vous jure, il a dit ça. Et l'autre Benet d'opiner, oui, achetez-le. Mais c'est pas possible, hein.
Non.
C'est pas possible. Quand est-ce que tous ces gens vont finir par comprendre qu'ils ont eux aussi une responsabilité pour maintenir cette chaîne du livre qui est garante de notre liberté? Alors, commander en ligne, déjà c'est grave, mais encourager, c'est presque pire.
C'est honteux. Je m'associe à votre coup de gueule, Déborah. Il faut absolument acheter les livres, je le disais en début d'émission, chez un libraire indépendant. C'est important pour la liberté, pour la diversité, pour la culture francophone, dans tous les pays. Dans quelles conditions que ce soit, achetez vos livres chez un libraire indépendant et n'achetez pas chez Amazon. Voilà. Merci Déborah. Merci beaucoup. Au Canada, un coup de cœur, Josiane Letourneau, je crois.
Ben oui, parce qu'on le sait, Emmanuel, en ce moment, on a besoin de rire. Et on sait aussi que l'adolescence, c'est une source d'inspiration inépuisable. Alors, j'ai envie de vous parler de la BD autofictionnelle de Catherine Lepage. Alors, déjà, le titre « Bouée », ça donne un peu le ton, car l'autrice, elle aborde les relations amicales, amoureuses et autres, entre guillemets, qui ont été déterminantes dans sa vie. Et j'ai envie de dire, parfois pour sa survie. En fait, elle dépeint la petite Catherine inexpérimentée et trop bonne élève qu'elle a été, avec une autodérision et une auto-analyse complètement irrésistible. Et son style graphique original, dans une bichromie toute de rose et de bleu, ça rend un fabuleux hommage aux dérives capillaires des années 80. Bref, j'ai adoré cette BD et j'espère déjà un Bouée volume 2.
Avec les amours de l'adolescence, hein, c'est pas compliqué, j'allais dire. Si, au contraire, c'est très compliqué. Et les délires capillaires, oui, ça fait penser à The Cure, par exemple, entre autres. Oui. Merci, Josiane Bouée, donc, de Catherine Lepage, aux éditions La Pastèque, géniale maison d'édition. En Suisse, Dominique Bressoux, un coup de cœur aussi.
Oui, alors moi, c'est un coup de cœur pour les jeunesses. C'est pour une collection de romans historiques chez Ozu, et plus spécialement pour le petit dernier qui s'appelle Les Enfants du Tsunami, qui se passe en Suisse. Ben oui, parce que vous n'étiez peut-être pas au courant, mais il y a eu un tsunami sur le lac Léman en l'an 563.
Ah oui.
C'est un texte de Olivier May à lire dès 9 ans, très bien documenté, avec de très belles illustrations de Ariane Delrieux. Et c'est, pour moi, c'est un petit bouquin à offrir comme ça, juste peut-être pour donner un peu le goût de l'histoire aux enfants.
Parfait. Les Enfants du Tsunami aux éditions Ozu. Merci beaucoup Dominique. Et voici un son africain pour notre séquence livre de poche. Cheikh Hamidou Kan est une grande personnalité de la littérature africaine. Son roman L'Aventure Ambiguë est un classique. Il est édité en poche chez 10-18. Voici un extrait d'entretien réalisé avec lui à Genève. Et bonjour Cheikh Hamidou Kan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vraiment marqué le monde littéraire africain et le monde littéraire mondial avec ce livre, L'Aventure Ambiguë, paru en 1961, édité en poche. Désormais, vous avez été haut fonctionnaire, ministre au Sénégal également. Vous abordez la notion de l'éducation et de l'identité. Pensez-vous qu'il faille aujourd'hui encore renoncer à une partie de ses traditions, une partie de sa culture, pour entrer dans un nouveau monde ?
On doit pouvoir renoncer à tout ce qui est dans son identité ou dans sa culture, superflu et en contradiction avec l'ouverture au monde. Et on est en train de développer aujourd'hui un monde qui est globalisé, où tous les humanismes se rencontrent. Maintenant, la colonisation est terminée. On peut continuer de se rencontrer entre Français, Canadiens, Belges, Libanais, et partager un monde que les progrès de la science ont rendu plus confortable pour tout le monde.
Dans ce livre, Cheikh Hamidou Kane, il y a cette question fondamentale qui est au cœur de votre texte. Peut-on apprendre ceci sans oublier cela ? Et ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie ? Alors aujourd'hui, quelle réponse avez-vous ? Quelle réponse donnez-vous à cette question que vous posiez en 61 ?
On peut apprendre sans oublier. On peut apprendre le français sans oublier le poulard. Même si aujourd'hui, c'est seulement le français qui est enseigné dans les écoles au Sénégal, je suis de la conviction qu'il faut transcrire et moderniser nos langues maternelles et les utiliser comme langue d'enseignement. Donc, beaucoup des questions que j'ai posées dans l'aventure ambiguë trouvent des réponses positives aujourd'hui.
Aujourd'hui, et par rapport à votre expérience aussi, puisque vous avez étudié en France, que vous avez sillonné le monde entier, donc du coup, vous en tirez différentes conclusions aujourd'hui. Cheikh Hamidou Kane, on estime la population subsaharienne à presque 2 milliards d'hommes. Ce sera dans 40 ans, 3 fois plus qu'en Europe, bien sûr plus que la Chine. Ce sera la population la plus jeune du monde aussi. Par comparaison, si on parle de la démographie américaine totale, hein, Amérique du Sud, Amérique du Nord, on approchera le milliard. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette population incroyable, 1 milliard 800 millions ?
Maintenant, les hommes de science sont à peu près d'accord pour considérer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais on va de plus en plus partager la conviction que l'Afrique est l'avenir du monde. Ce que vous avez rappelé, le poids de la jeunesse dans cette population africaine est un des signes de ce que le monde qui va venir est un monde qui doit compter avec l'Afrique. L'Afrique va occuper une place centrale dans ce monde. L'essentiel des ressources matérielles au plan minéral, au plan hydraulique, tout ceci est en Afrique. Et c'est pour ça que le monde entier est en train de tourner son regard vers le continent africain.
Alors vous êtes partisan d'un continent qui se fédère, un peu sur le modèle des États-Unis d'Amérique.
Un peu sur le modèle des États-Unis d'Amérique, un peu sur le modèle aussi des Européens qui maintenant, après s'être entretués pendant des siècles, entre nations, maintenant ils ont senti la nécessité d'avoir des armées communes, une monnaie commune, une économie commune. C'est une plaisanterie que, douloureuse pour nous de continuer d'être les 54 ou 55 petits pays d'Afrique qui sont des morceaux que les Européens avaient découpés sur le continent africain. Il faut réunir tout ça, faire les États-Unis d'Afrique.
Et ça, ça va favoriser aussi, vous l'expliquez, la vie des Africains. Parce que d'une part, on va pouvoir mieux négocier les matières premières ou même l'agriculture. Et ça va permettre aussi au continent africain de pouvoir enfin se nourrir et pas d'exporter toute sa production.
Tout à fait, tout à fait. Nos États modernes africains doivent s'inspirer de cela et donc négocier ce retour de l'Afrique pour le bien-être des populations africaines.
Le roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, est paru chez 10-18. Et dans un instant, un roman belge bouleversant sur ces infirmières qui sauvent des enfants. Avant cela, écoutez cette nouveauté musicale, on l'a choisie pour vous. Voici Zed Youn Pavarotti dans la librairie francophone.
Phénoménal, à quelle histoire, c'est pas si mal, y'a plein d'effets, le cordon n'effraie personne qui touche la terre, t'en vas pas mon règne, dur à l'air au sol, l'heure n'a pas bon mais et j'ai le sourire aux lèvres. Le ventre adore la guerre, mais mon cœur je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le sceptre est pas la main. La peur c'est la paix qui dure. Ah, 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 c'est la vie de rêve. C'est la vie de rêve. Celle qui coule le bateau. C'est la vie de rêve. Quelle riche ça, t'en vas pas mon rêve, dure à l'air ensemble, l'heure n'a pas bon maître, l'être que perdent les âmes qui font le rêve, les autres perdent un magot. Je prendrai tout ce qui reste et j'en ferai. Et j'ai le sourire aux lèvres, le ventre adore la guerre, mais mon cœur je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le sceptre est pas la main, la peur c'est la paix qui dure.
J'espère que ça vous a plu. C'était Zed Youn Pavarotti avec Merveille.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Alia Cardin.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de Bruxelles. Vous publiez Mademoiselle Papillon aux éditions Robert Laffont. C'est l'histoire de deux infirmières. L'une vit de nos jours, elle travaille dans un service de néonatalogie. Elle accueille des bébés prématurés. Et l'autre est une femme qui s'est battue entre les deux guerres pour sauver des enfants de la tuberculose, puis aussi des enfants juifs. Thérèse Papillon, c'est son nom, elle a vraiment existé?
Oui, j'ai rencontré Thérèse Papillon. Bah, elle est décédée il y a 30 ans, mais je l'ai découverte au cours de l'été 2018. J'ai visité l'abbaye de Valoir et lorsque la guide a évoqué son histoire, bah, j'étais dans l'instant, je suis tombée en amour pour cette femme. Je la trouvais incroyable.
Ah oui.
Ouais. Et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi le reste du groupe, ils avaient l'air de pas du tout être frappés par cette histoire qui, moi, me bouleversait à un point que, ouais, dans la minute, j'ai décidé d'écrire sur elle. Hein. C'était...
Alors c'est vrai que son histoire est incroyable parce qu'elle commence en 1922. Elle décide de se mobiliser parce qu'elle voit des enfants dans la rue, comme ça, qui sont en guenilles, qui sont abandonnés, laissés à eux-mêmes. Et puis il y a la tuberculose à l'époque. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de faire quelque chose pour eux. Et elle va trouver cette abbaye de Valoir. Et entre 1922 et 1974, 25 000 enfants seront accueillis.
Oui, et moi ce qui me touche, c'est qu'elle sort d'une période très sombre, la Première Guerre mondiale, et sa sagesse est incroyable. C'est la sagesse d'une infirmière qui a fait la guerre, qui sait qu'il faut faire avec. Et au milieu de cette noirceur, de cette période très sombre, elle va bâtir un projet qui est profondément lumineux. Et j'ai écouté de nombreuses heures les gens qui ont connu Thérèse Papillon et dans leur voix, mais je peux encore percevoir la joie immense qu'ils ont reçue dans ce refuge que l'abbaye de Valoir a été pour eux.
Cette femme résistante, résiliente, sera un modèle pour Gabrielle. Gabrielle, c'est une infirmière de nos jours qui s'occupe de bébés prématurés. Elle aussi, c'est le dernier espoir parfois.
Le gros souci avec Thérèse Papillon, son gros défaut, c'est qu'elle était parfaite. Et donc j'avais envie d'avoir un personnage qui puisse plus me ressembler en tant qu'être humain, donc avoir plus de failles. Et donc j'ai rencontré des infirmières en néonatologie, je les ai écoutées et j'ai été terriblement touchée par leur travail. Je ne me rendais pas compte qu'elles avaient un tel niveau de responsabilité, un tel niveau d'engagement. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était d'être face à la souffrance en permanence. Et ça m'a terriblement touchée. J'étais très émue lors des interviews. Mmh. Et c'était très simple après d'écrire une histoire pour relayer leur immense sagesse, leur quotidien.
Ouais. Et leur responsabilité surtout.
Oui. Ouais.
Vous êtes très émue, hein, Alia, je
oui,
trouve.
C'est... Ouais. Oui, encore, oui, encore c'est vrai. Dès que j'en parle, dès que j'en parle, ça a été un moment tellement déterminant dans ma vie. Enfin, j'ai écrit ce roman en 2018 et j'ai terminé en 2019. Je dis parce que le rapport avec l'actualité est troublant, donc voilà. Mais c'est vrai que de passer du temps dans un univers qu'on ne connaît pas. J'ai trois enfants que j'ai accouchés après terme, donc je ne connais pas la prématurité. C'est inouï en fait ce qu'on découvre quand on écoute les autres êtres humains, quand on rencontre. Leur univers, et voilà, ça a été captivant et ça me captive encore aujourd'hui.
En tout cas, vous décrivez très bien la douleur des parents qui voient partir leur bébé. C'est bouleversant. Je ne vais pas tout raconter car en ce moment, la tristesse est lourde à porter et même à entendre. Donc on va parler d'espoir, Alia Cardin, parce que sans ces infirmières, vous le racontez aussi, eh bien, beaucoup de bébés nés trop tôt ne survivraient pas.
Oui, je trouve que c'est un livre... Enfin, j'ai eu beaucoup de témoignages de retours d'infirmières depuis qu'il est sorti. Et c'est un livre, me disent-elles, qui donne du sens à leur métier, qui leur permet de trouver peut-être une autre façon de se positionner dans le don de soi, parce que c'est ça qui est compliqué. C'est que ces infirmières, elles sont extrêmement dévouées, mais comment donner sur le long terme, avec intensité, quand on est face à la souffrance. Et donc, c'est chaque fois savoir se repositionner.
Bon, on va laisser la place à nos libraires, Alia Cardin, deux libraires. Libraires ont lu votre roman, Déborah Damblon et Dominique Bressoux. On va commencer par la Belgique, avec vous Déborah.
Alors, comme dit la maman de Gabriel, c'est un livre qu'on ne peut pas ne pas aimer. D'ailleurs, moi je trouve qu'il s'avale plus qu'il se lit, parce que chaque chapitre commence par une frustration, c'est d'avoir quitté le personnage précédent, mais immédiatement après c'est le soulagement de retrouver le personnage suivant, et puis on lit comme ça jusqu'à la fin, avec les yeux mouillés, avec le cœur en vrac de tout ce que traversent vos personnages. C'est formidable. Sinon, je suis juste un tout petit peu déçue, c'est d'avoir préféré Gabi à Thérèse, mais vous avez donné une explication. Mais malgré son doux nom de papillon, j'ai eu un peu plus de mal, mais c'est peut-être dû aussi aux très longs passages en italique qui sont moins agréables à lire.
Ouais, c'est vrai que la forme du livre est variée, hein. Quand c'est Thérèse, c'est en italique, et quand c'est Gabriel, c'est en caractère normal. C'était un choix de votre part, Alia, ça?
Alors, c'est juste les carnets de Mademoiselle Papillon qui sont en italique, pour les distinguer du reste. Je l'avais mis au départ comme ça, et mon éditrice, Claire Dossero, n'a rien proposé de différent. Bon. Mais c'est intéressant comme feedback. Et merci pour... Les beaux compliments, ça me touche beaucoup.
La Suisse, Dominique Bressoux, qu'en pensez-vous ?
Moi, j'ai trouvé que c'était un vrai bijou de lecture. Parce que Madame Cardin, vous réussissez à nous faire vivre deux vies passionnées et passionnantes dans un livre chargé d'émotions fortes. Et je dois avouer que c'est bien la première fois qu'en lisant, j'ai retenu mon souffle sur de longs passages. Et puis, en plus, il était vraiment temps de faire ce magnifique hommage au courage de toutes les infirmières qui restent le plus souvent injustement anonymes et qui sont pourtant indispensables depuis des siècles. Et moi, je vous dis merci du fond du cœur.
Vous avez séduit nos libraires, Alia.
Ben voilà, j'ai les larmes aux yeux.
Oui, je le sens.
Merci beaucoup, vous savez quoi, ça me touche.
On est à distance parce que Covid oblige, hein, vous êtes à Bruxelles et moi dans un autre studio. Ouais. Mais c'est vrai que je sens que vous avez les larmes aux yeux.
Oui, je suis très heureuse aussi de votre invitation, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, c'est normal, vous êtes la bienvenue. Il y a des choses étonnantes dans votre livre, Alia. Il y a Gabriel qui va découvrir une méthode, la méthode du NICAP. Vous pouvez en dire deux mots de cette méthode-là? On dit NICAP ou NICAP d'ailleurs?
NICAP. Donc c'est une méthode qui a été mise au point par une professeure de Harvard qui a 87 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Adelise Hales et je l'ai interviewée. En fait, cette femme a essayé d'amener de l'humanité dans un domaine, un univers où la technicité règne. Parce qu'il faut bien vous dire, quand on doit agir sur un bébé de 24, 25, 26 semaines, c'est compliqué de mettre de l'humanité dans tout ça, tellement le stress est élevé, tellement chaque acte est compliqué. Et donc j'avais envie que mon roman puisse peut-être véhiculer l'existence de cette technique qui est de plus plus en plus connu dans les différents hôpitaux, qui vise en fait à expliquer que les bébés à cet âge-là ont besoin d'une sollicitation moindre, donc moins de lumière, moins de bruit, mais aussi qui permet un codage du langage du bébé, donc c'est-à-dire que le bébé même à 25 semaines, s'exprime à travers sa couleur de peau, ses gestes, les mimiques de son visage, et que si on le regarde, si on l'observe bien, eh bien on peut l'entendre.
Ouais,
on peut entendre alors à quel moment on peut poser tel geste, un soin ou l'autre, ou à quel moment il faut laisser tranquille l'enfant.
Alors cette méthode utilise aussi certaines techniques, comme mettre un t-shirt de la maman dans la couveuse, qui peut rassurer le bébé, mettre l'enfant dans l'obscurité, en contact avec sa mère autant que possible, et limiter le stress au maximum. Et vous dites aussi dans ce livre que ces bébés aux corps inachevés sont beaucoup plus sensibles aux stimulations tactiles, visuelles et sonores que nous.
Oui, tout à fait, parce que leur système nerveux n'est pas abouti. J'ai eu la chance de travailler vraiment, de collaborer avec les chefs de service aussi de néonatologie et les médecins. Et donc, ils ont lu attentivement pour que tout soit exact sur le plan scientifique. Et j'ai énormément appris. Et en effet, je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire aujourd'hui. Et dans beaucoup de services, le NICAP n'existe pas. Et donc, si un parent a accès à cette information via ce roman, c'est génial. Le parent peut alors demander plus de peau à peau. Et savoir que c'est important le premier soignant d'un enfant, c'est le parent.
Alors dans ce livre, il y a Gabrielle qui est confrontée à ce métier qui l'accapare physiquement mais aussi moralement. Elle doit se fixer des limites, mais c'est souvent impossible parce qu'elle est trop imprégnée par son métier.
Oui, c'est toute la question du don de soi. Donc évidemment, le métier d'infirmière, c'est un métier où on se donne à 100 000 à l'heure. C'est une vocation. On fait ça parce qu'on a envie d'aider les autres, on a envie d'être proche d'eux. Le souci, c'est que... avec les horaires actuels, on connaît la situation sur le plan sanitaire et on en fait vachement les frais aujourd'hui, le manque d'investissement financier, etc. La masse de travail qu'on impose aux équipes fait que ça devient aussi, je crois, plus compliqué de conserver cet équilibre, de conserver cette juste distance qui fait qu'on peut être là pour l'autre, qu'on peut l'accompagner tout en se préservant soi-même. Et c'est toujours un équilibre qu'il faut parvenir à choisir, mais pour ça, il faut un peu de temps, il faut avoir des respirations. Et donc, j'avais aussi envie de parler de ce sujet dans mon roman, parce que je pense que c'est capital. Les infirmières comme les enseignants dont je vais parler dans mes prochains romans, c'est des métiers qui sont pas assez valorisés et qu'on entoure pas assez, qu'on soutient pas assez, alors que c'est des métiers qui sont capitaux.
Ouais.
Et on le voit aujourd'hui.
C'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup Alia Cardin, merci infiniment.
Merci Emmanuel.
D'être venu dans la librairie francophone Mademoiselle Papillon, est paru chez Robert Laffont. À bientôt Alia.
Merci Emmanuel, à bientôt.
On termine avec une musique numéro 1 quelque part dans le monde. Voici la chanteuse Manal avec un extrait de son titre Nia, numéro 1 en ce moment au Maroc. La chanteuse Manal qui est numéro 1 en ce moment au Maroc. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Pierre Faucillon. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikils avec Valérie Putain en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, nous soutiendrons à distance le Salon du Livre de Montréal avec entretiens, souvenirs et reportages. Nous serons aussi avec Gérard Jugnot pour un livre de contes drôle et décalé. Bon courage à tous, faites attention à vous surtout. À bientôt, salut.